Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fréquence Association. Cette semaine, nous allons vous faire découvrir ou redécouvrir la fosse 10 de Billy Montigny avec l'aide de Sébastien Glaubert, président de l'association des amis de la fosse 10 qui m'a fait visiter ce site qui était à l'abandon et que l'association tente de restaurer depuis 2009. D'après lui, il s'agit du plus ancien bâtiment minier encore visible sur le territoire de Lens-Hénin, un bâtiment menacé par un projet de construction de lotissement. Situé à 15 minutes de Lens, la fosse 10 de Billy Montigny appartenait à la compagnie des mines de Courrières avant que cette compagnie et 17 autres ne soient nationalisées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, passant ainsi sous la bannière des HBNPC. Elle a débuté son exploitation en 1900, une exploitation qui s'est poursuivie pendant 53 ans. La fosse 10 de Billy Montigny a employé jusqu'à 1200 mineurs dans les années 40. Elle fut également le témoin de la fameuse catastrophe de Courrières en 1906. Les puits furent remblayés en 1955 et les chevalements détruits un an plus tard. Mais de nombreux bâtiments sont encore présents, notamment l'ancienne salle des machines que l'association des amis de la fosse 10 veut à tout prix préserver et qui était devenue une chaudronnerie entre 1966 et 2007. Ce bâtiment possède l'architecture caractéristique des fosses de la compagnie des mines de Courrières datant de la fin du 19e siècle, ce qui fait de cette ancienne salle des machines un témoignage rare de cette époque. Sébastien Glaubert, le président des amis de la fosse 10, est d'ailleurs sur le point de publier un livre, Histoire de la fosse 10 de Billy Montigny, qui devrait paraître d'ici quelques mois. Reportage. Alors Sébastien Glaubert, bonjour et merci d'être avec nous. Comment s'est créée votre association, les amis de la fosse 10?
Bon, en fait, on a visité ce site pour la première fois en 2009 et on a été séduit. J'étais avec un groupe d'amis en fait. On a été séduit par l'architecture du bâtiment et on a voulu en fait faire quelque chose pour le sauver. Et la seule solution à l'époque, c'était de faire une demande de protection au monument historique. Et donc, on s'est mis en association dans ce but en fait, hein, puis de garder la mémoire et puis en même temps de le sauvegarder le bâtiment.
Alors, c'est-à-dire que le bâtiment, pour l'instant, n'est pas classé monument historique, il n'est pas non plus dans le patrimoine bassin minier UNESCO ?
Non, pas du tout. Pour l'instant, en fait, pour aboutir au classement bassin minier UNESCO, il faut déjà qu'il soit classé monument historique. Donc, c'est l'objet de nos démarches. En fait, il est un peu tombé dans l'oubli, ce bâtiment, et c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'activités pour le révéler, quoi, pour le faire connaître. Comme par exemple, là, le 21 septembre, on va faire les journées du patrimoine. Et on a déjà pas mal de rendez-vous pour des visites guidées. Donc c'est avantageux pour nous. Grâce à ça, on pourra faire connaître le bâtiment. Et puis ça donnera un intérêt supplémentaire à son classement et à sa protection.
Alors parlez-nous un petit peu de l'histoire de cette fosse qui appartenait à la compagnie des mines de Courrières. Et dont les puits ont été remblayés, si j'ai bien lu, au milieu des années 50.
Oui, en fait, si vous voulez, la fosse 10 est entrée en exploitation en 1900, en février 1900, et elle a été exploitée pendant 53 ans par les mines de Courrières et après les HBNPC, en fait, c'était les houillères nationales. Bon, il y a eu une pause pendant la Première Guerre mondiale parce que les Allemands occupaient le bassin. Et en 1918, quand ils se sont repliés, ils ont saboté toutes les installations de surface. Donc il a fallu 6 ans pour reconstruire ensuite les chevalements et puis les installations, les machines, tout ça.
Alors pourquoi souhaitez-vous justement préserver ce site ?
Moi je suis un amoureux du patrimoine minier, donc depuis l'âge de 8 ans je suis passionné par les mines. J'ai fait mes inventaires en fait de tous les vestiges des houillères dans le bassin. Et voilà, pour moi c'est le plus intéressant, c'est le plus important bâtiment de la région lensoise au niveau de sa surface, de son âge, puis l'intérêt technique et architectural.
Je vais vous laisser un petit peu montrer les bâtiments.
On va peut-être commencer par le puits 10 si ça vous intéresse. Là, vous avez, on l'a débroussaillé récemment. C'est la dalle du puits de mine, en fait, du puits numéro 10. Donc, en fait, si vous voulez, il y avait un chevalement ici, là. avec un puits profond de 700 mètres en dessous de nous, à peu près 5 mètres de diamètre. Là, on a posé un panneau pour raconter un petit peu son histoire. Donc voilà, il a été ouvert en 1895 et il a fallu 5 ans pour le creuser, puis ensuite le mettre en service, l'équiper, hein, faire un cuvelage. C'est-à-dire, en fait, autour des terres, on met une paroi en brique pour protéger les infiltrations d'eau, parce qu'il y a beaucoup d'eau dans le puits. Et ensuite, on fait un guidage pour faire glisser les cages. C'est comme une voie ferrée, en fait, de chemin de fer. On met des cages, en fait, qui descendent les mineurs et remontent le charbon. Et donc, ensuite, on construit les installations de surface, la salle des machines où on est actuellement, et puis le chevalement, les installations de traitement du charbon. Voilà. Donc, nous, on a posé un panneau simplement pour expliquer un petit peu l'historique du puits. Elle a été rebouchée dans les années 1955 et le chevalement a été démoli en 56. On va faire le tour, si vous voulez, du terrain.
Oui.
On a aménagé, en fait, si vous voulez, quand on est arrivé ici. En fait, depuis 2009, on veut protéger le site. Et en 2012, on a créé notre association. Et là, le propriétaire, en fait, nous a laissé le champ libre sur le site. Depuis ce temps-là, on occupe le site. Donc, quand on est arrivé, c'était un petit peu la forêt ici. Hein. Tout était à l'abandon, saboté, tout ça. Il y avait pas mal de vandalisme. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est de tout débroussailler autour du bâtiment. Et c'est nous qui avons aménagé le chemin là où on se trouve actuellement. Donc là, vous pouvez voir, sur notre droite, on a un hangar, en fait, métallique, qui n'est pas de la mine. Il a été construit par l'actuel propriétaire, en fait, pour faire une chaudronnerie à l'intérieur. Et lorsqu'il a arrêté ses activités, bah voilà, tout est tombé à l'abandon, quoi, en fait. C'est plus occupé depuis. Et nous, pour nous, c'est pas dans le contexte minier, donc on est en train de le démolir.
Voilà, c'est un hangar qui a été construit, je crois, en 1971.
Ouais.
Et c'est actuellement votre plus gros chantier, puisqu'il y a de l'amiante, hein, je crois.
Oui, bah c'est pas seulement l'amiante, c'est aussi pour tout déshabiller, il y a énormément d'éléments métalliques, tout ça qu'il va falloir découper, et c'est nous qui prenons tout en charge, quoi. Donc on a déjà démoli plusieurs bâtiments de la chaudronnerie qui étaient sur le site, parce que nous on veut garder que cette salle des machines.
D'accord.
Et on est une poignée de bénévoles tous les samedis on se retrouve tous les samedis matin, et il y a pas mal de boulot, quoi, pour démonter toute la structure, quoi.
Donc ça, c'était l'ancienne salle des machines.
En fait, il y avait la partie avant où c'était les machines avec des compresseurs et des ventilateurs. Et les trois quarts du bâtiment, c'était la chaufferie avec les chaudières. Je vous montrerai après, là-bas, on a deux chaudières d'époque et je vous expliquerai un petit peu le principe. Mais en fait, c'est un bâtiment qui a été construit à partir de 1896. Et en fait, il alimentait en vapeur toutes les machines au fond et au jour. Tous les arbres qui sont autour de nous, c'était à peu près la même chose jusqu'au bâtiment, jusqu'à ras du bâtiment. Donc on a tout abattu, on a fait venir un bulldozer et puis on a tout nivelé le sol, en fait. On a fait la piste en schiste que vous avez là, c'est nous qui l'avons aménagée. Et ensuite, voilà, notre but, c'est de faire un petit parc, de conserver l'aspect boisé sur le site et de préserver surtout le bâtiment et de faire des visites guidées tout autour. Donc là, en fait, on loue en fait une petite partie de notre terrain orange. Qui ont implanté donc une antenne pour une durée de 12 ans. Ça nous assure quelques revenus pour ensuite, parce qu'on s'occupe de la taxe foncière, tout ça. On paye les charges, en fait, du site. Et voilà, quoi, ça fait un petit peu de rentrée d'argent dans les caisses de l'association.
Et alors, du coup, votre association, elle a aussi des subventions, j'imagine ?
Non, pour l'instant, on n'a rien du tout. On a juste, donc, comme je vous disais, la location avec Orange et les cotisations et les dons de nos membres, en fait. C'est tout ce qui est nos ressources, en fait. Là, c'est un exemple de nos travaux. Bon, ce mur, il est vachement abîmé avec le temps. Il n'a jamais été entretenu vraiment depuis la fermeture de la mine. Donc nous, on a commencé à consolider sa base. Il y avait un bâtiment là, hein. Il y avait un petit bâtiment. Donc on va réaménager toute cette partie-là, puis consolider le mur. Là, vous avez un autre panneau qu'on a posé, en fait. Parce que, si vous voulez, cette partie arrière du bâtiment, c'est ici qu'on va faire notre local d'association. Donc là où il y a la fenêtre là, puis la porte, ce sera notre local par la suite. Donc là, on va rénover cette porte, et puis ce sera une nouvelle entrée après par la suite pour notre association. On a posé un petit panneau là qui explique un petit peu l'histoire. C'est la chaufferie numéro 2, en fait. C'est une salle à part par rapport à celle-là. Elle a été construite après.
Vos parents, grands-parents ont travaillé dans cette mine ou...
Non, en fait, mes parents, ils étaient commerçants, mais mes deux grands-pères ont travaillé à la mine. Et mon grand-père maternel, quand il est arrivé en Italie, a travaillé à la fosse 10 quelques mois. Ensuite, elle a fermé, puis il a été muté dans une autre fosse pas loin, en fait, des environs.
Et donc là, cet été, vous avez poursuivi quasiment l'ensemble de vos travaux.
Bah, ça a été une des plus grandes années au niveau des travaux pour notre association, parce que on a fait donc le permis de démolir pour le hangar et puis pour un autre local qui était devant le bâtiment, qui nuisait un petit peu à l'apparence du site. Et donc ça a été accordé et on s'est beaucoup occupé de ça. Ensuite, on a créé des événements comme la fête de la mine au mois de juin, qui a eu pas mal de succès. C'était une exposition en fait sur la mine, sur le site, et bah, tout le monde pouvait, c'était en entrée libre, quoi. Donc il y a eu pas mal de visiteurs et on est assez satisfait. On pense reproduire l'événement pour l'année prochaine. Ensuite, on fait aussi des commémorations. Donc c'est-à-dire que ici sur le site, si vous voulez, c'est une concession qui prend plusieurs communes. Il y a Billy-Montigny, mais il y a aussi Salomine, Méricourt, enfin des villes des environs. C'est la concession de Courrières. Et il y a eu une catastrophe. Il y a eu 1099 morts le 10 mars 1906.
La catastrophe, la fameuse
catastrophe de Courrières. Courrières, c'est ça. Et la fosse 10, en fait, n'a pas été impactée par la catastrophe, mais les sauveteurs sont descendus ici, dans le puits que je vous ai montré. Et par ce puits, qui n'était pas bouché, parce que la catastrophe avait fait énormément de dégâts aux installations minières, le puits 10 n'était pas bouché, donc les sauveteurs sont descendus ici pour aller secourir les mineurs qui étaient bloqués au fond et remonter des victimes. Bah, c'est pareil, hein. Ici, toute cette bande-là, c'était remplie d'arbres. On l'a défriché récemment, mais bon, il faut beaucoup d'entretien. Hein. C'est pas évident pour nous d'être partout, mais il faut régulièrement défricher. Là, pour l'instant, notre occupation, c'est surtout la démolition du hangar pour rendre le bâtiment un peu plus esthétique, parce que ça nuit, quand on le voit en arrivant sur le site, ça nuit un petit peu à l'aspect du bâtiment. Mais par la suite, on prendra vraiment en main cette partie-là, quoi.
Et vous êtes combien de bénévoles au sein de l'association à œuvrer pour ces travaux?
Si vous voulez, on est 50 membres répartis en France et en Belgique. Et pour les bénévoles qui viennent le samedi sur travailler avec nous, on est une petite équipe, on est trois personnes maximum en fait. Et moi, je viens tous les jours assurer la surveillance sur le site, parce qu'il y a, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu pas mal de vandalisme, et des jeunes souvent qui tentent de rentrer. Pour eux, c'est un terrain de jeu, quoi. Donc, ils cherchent à s'amuser avant tout, mais ils ont commis beaucoup de dégradations, quoi. Donc, on est obligé de faire une surveillance maximale. Voilà. Là, on arrive à la façade principale du bâtiment. Pour moi, c'est la plus belle, quoi. Et vous voyez un petit peu nos travaux récents. C'est là, les peintures sur les fenêtres, les portes. On a remis en peinture aussi les linteaux qui étaient très rouillés. Et on voit bien la structure du bâtiment, en fait, si vous voulez, sur ici. C'est un bâtiment entièrement en briques, qui n'a pas d'ossature en béton, pas de fer. C'est toute la brique sur 1 mètre d'épaisseur. Et la charpente est rivetée. Et aussi les linteaux là, que vous voyez, c'est tout fait avec des rivets en fait, hein, en fer forgé. Et nous, on a restauré tout ça durant cet été. Là, il y avait un bâtiment, comme je vous disais, la station de pompage qu'on a démoli, qui était juste devant nous là. Et on est en train en fait de reconstruire le mur comme il était il y a 100 ans. Et après, on va reposer une fenêtre là où il y a l'étole, là on va reposer la même fenêtre ici.
Ce que vous soulignez aussi, c'est la rareté de ce type de ce bâtiment minier.
Voilà, exactement. Ouais, si vous voulez, il y a quelques sites conservés dans la région, mais ils ont rien, ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose. Déjà, c'est au niveau de la production d'énergie. C'était un bâtiment qui produisait de la vapeur, et tous les sites protégés dans la région, il y a plus ce type de bâtiment, quoi. En fait, on n'en trouve plus. Je vais vous montrer si vous voulez l'intérieur. Vous aurez un petit aperçu. Attention là. On met des barrières pour pas que les gens voient tout ce qu'il y a dedans.
Voilà. Ah oui.
Bon, c'est un peu notre atelier. Hein. On conserve du matériel, on a eu pas mal de dons. On a beaucoup de wagonnets des mines, si vous voulez, par exemple. Et là, vous voyez un peu la structure de la charpente. Ça ressemble en fait à la structure des chevalements, notamment dans les mines de Courrières. C'était tout des poutrelles à treillis comme ça, riftées. Et voilà, pour nous, c'est vraiment exceptionnel, quoi. Là, il y a un pont roulant ici derrière nous, là, qui a été construit par le constructeur des chevalements. En fait, c'est le même constructeur, hein, et il date de 1924. À l'avant, il y a une plaque du constructeur avec l'année de construction, quoi. Et nous, on a des photos quand ils l'ont installé.
Et donc là-bas, espèce de salle dépendue.
Non, ça c'est une reconstitution qu'on a fait nous en fait. Hein, c'est un de nos bénévoles qui a reposé un pendu. Mais en fait, on a énormément de matériel. On pourrait remplir une salle d'exposition si vous voulez. On a des cuffes et tout. Et puis là, c'est des petites démonstrations en fait de ce qu'on peut faire, quoi.
Donc, oui. Donc cette salle ici, c'était quoi? Donc vous m'avez dit la chaufferie à l'arrière et puis...
C'était la salle des compresseurs ici à l'avant. Donc ils produisaient l'air comprimé pour alimenter les marteaux piqueurs, tout ça au fond. Et le reste, c'était la chaufferie. Donc il y avait 14 chaudières comme celles qui sont dehors et qui produisaient la vapeur pour faire tourner la machine d'extraction. Je ne sais pas si vous avez vu le film Germinal, on voit un petit peu le principe. Bah, c'était le même principe, mais en plus grand.
Donc c'est un des bâtiments effectivement qui a survécu parce que les autres bâtiments ont été détruits.
Quand ça a fermé, l'intérêt du bâtiment, c'était sa surface. Donc les houillères se sont dit, on ne va pas démolir un grand bâtiment comme ça, on va le garder pour faire du stockage. Donc ils ont démonté toutes les machines, ils ont rebétonné le sol et ils s'en sont servis comme atelier de stockage. Et par la suite, ils l'ont vendu au propriétaire actuel et c'est devenu une chaudronnerie.
Mais et donc là, les berlines qu'on voit, elles viennent d'ici?
Elles viennent pas d'ici, ça c'est des dons à travers la région. Mmh. On a récupéré pas mal de matériel dans toute la région. Et nous, on s'occupe là actuellement, c'est de les restaurer. Parce que malheureusement, elles sont restées stockées au même endroit pendant plusieurs décennies. Et les empattements des roues sont complètement corrodés. Donc on est en train de refaire des nouveaux empattements. Ça c'est une porte qu'on a posée aussi cet été. Oui. On veut séparer les deux salles. Et voilà, vous avez un peu un aperçu de notre matériel qu'on conserve ici. Bon, on va pas aller jusque là-bas, mais je vais vous montrer comme ça. Là, vous avez une maquette de mine. Il y a pas mal de choses, hein. Et tout est stocké comme ça, donc on va commencer seulement à bien inventorier tout. Et là, on construit un local pour notre association. Donc, il y aura la salle de réunion et une salle de stockage des archives à l'arrière. Deux salles. On a 500 casques de mineurs, là, de différents modèles. De différentes époques qu'on a récupérées. Ça vient pas de la fosse 10, hein, ça vient d'autres mines de toute la région. Et il est pas rare en fait que lors de nos sorties sur des terrils ou des choses comme ça, on trouve des vestiges, notamment des casques de mineurs. Donc nous, on a récupéré tout ce qu'on trouvait, quoi. C'était surtout dans les années 90, juste après la fermeture des mines. Ouais. Et bon, ici c'est une salle pour l'instant c'est du stockage, mais après ce sera la salle principale de notre association où on fera des expositions permanentes de matériel, tout sera correctement inventorié et il y aura des visites guidées à l'intérieur de la salle, quoi.
Sébastien Globert, le président de l'association des Amis de la Fosse 10 de Billy-Montigny, me montre alors la toiture du bâtiment en cours de rénovation que viennent transpercer quelques rayons de soleil.
Par rapport à nos activités, en fait, quand on est arrivé ici, il n'y avait plus de toiture. En fait, toutes les tuiles étaient manquantes. Ah oui. Et l'année dernière, en fait, on a toutes les tuiles que vous voyez là au-dessus de nous ont été reposées par nos bénévoles. Et bon, ça représente rien que pour cette salle-là à peu près 900 tuiles, 3 ans de boulot. Et bon, il y avait encore quelques tôles, hein, mais il y avait beaucoup d'eau qui passait. C'était plus une salle du tout étanche, quoi. Il y avait énormément de... Quand, dès qu'il pleuvait, on recevait tout dans la tronche. Et voilà, donc on a même le mur là-bas, tout était ouvert, hein, les portes, il n'y avait plus de portes en fait. Donc on a tout refermé, puis on a remis des tuiles sur le toit. Là, la prochaine étape aussi pour cette salle, c'est de remettre des tôles sur la partie supérieure là, qui est encore ouverte et sur la fenêtre.
Ici, c'était également une chaufferie, en fait.
Elle a été construite en 1909, en fait, parce qu'il n'y avait plus assez de production de vapeur. Il en fallait encore plus parce que la fosse 10 se développait. Il y avait de plus en plus de production. Donc, ça a nécessité la construction de cette nouvelle salle. Et il y avait deux chaudières ici dans cette salle avec en permanence des chauffeurs pour l'alimenter, quoi. C'était à la main avec une pelle, ils chargeaient le charbon dans des foyers, en fait. Après la Première Guerre mondiale, ça a été modifié, en fait. C'était plus une chaufferie. C'était une salle des machines sur toute la longueur. Seule cette chaufferie-là a été conservée.
Et donc là, la rénovation, vous l'effectuez depuis combien d'années ?
La rénovation du bâtiment, oui. Bah depuis 2012, hein, les premières choses qu'on a fait, c'est de fermer les accès, là, parce que vous avez des communications avec le hangar qu'on est en train de démolir, là. Il y avait trois accès qu'on a fermés. Ensuite, bah, on a dû débarrasser le bâtiment. Il y avait énormément de choses. Il y avait des gravats. Il y avait de la végétation. Après, bah, comme il n'y avait plus de toiture, on a acquis ou bien récupéré des tuiles à droite à gauche. Il nous a fallu à peu près 3000 tuiles pour la salle des machines. Et donc ça a pris pas mal de temps aussi. Et ensuite, bah, on a sécurisé au niveau des fenêtres, tout ça. On a remis des cadenas sur les portes. On a remis des portes même. Donc voilà, il y a eu énormément de choses. Après, pour résumer, qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Le défrichage du site. On a remis des barrières tout autour, sur le terrain. On a fait énormément de choses. En fait, l'association, au sein de l'association, il y a deux pôles d'activité. Il y a l'activité travaux, c'est le bâtiment, avec son aménagement, sa requalification, tout ça, sa mise en sécurité. Et après, il y a le pôle mémoire. Là, c'est toutes nos commémorations, comme je vous disais tout à l'heure avec la catastrophe de Courrières. Exposition de matériel pour toutes les communes dans la région. En fait, hein, on propose des expositions, même en tenue de mineur, tout ça. Donc, et la fête de la mine qu'on organise au mois de juin.
Alors là, je vois qu'il y a des berlines que vous avez repeintes.
Bah, on a carrément posé la voie là, durant l'été aussi, juillet-août. On a posé la voie ferrée vraiment aux normes, comme elles étaient dans les mines, avec des traverses métalliques en dessous, qui tout le matériel en fait est d'origine. Et les berlines sont des berlines qu'on a reçues en don ou qu'on a acquis à des ferrailleurs, tout ça, on les a sauvées en fait de la ferraille. Et on les a ensuite restaurées, les roues ont été restaurées, elles sont toutes roulantes, et on les a repeintes pour les protéger de la rouille. Il y en a une qui est pas mal amochée, là vous voyez, elle est corrodée par la rouille, mais on l'a juste poncée en fait et on a mis de l'anti-rouille et on les a repeints. Mais on a voulu garder un petit peu son vécu, quoi. On n'a pas voulu vraiment la. Parce qu'il y a certaines associations qui restaurent les berlines vraiment comme elles étaient à l'origine. Mais nous, on veut vraiment que ça reste avec leur vécu, quoi, conservé dans l'état.
Là, les deux machines qu'on voit, là, c'est.
C'est des chaudières, c'est pas vraiment des machines en fait. C'est, si vous voulez, elles étaient remplies d'eau, il y a des tubes cylindriques à l'intérieur. Et il y avait de l'eau et en chauffant, ça donnait de la vapeur. Là, on a posé un panneau pour expliquer un petit peu comment ça fonctionnait. Et en fait, c'est ça qui se trouvait dans notre bâtiment avant la Première Guerre mondiale. Donc ces deux chaudières-là ont été léguées par la région en 2013. Elles viennent de Bruay-la-Bussière et elles étaient sur un ancien site minier qui a été démoli. Et on essayait d'ailleurs, on menait des actions pour que ce bâtiment soit classé, mais il était tellement abîmé que voilà, ça n'a pas été possible. Mais par contre, la région nous a proposé un don gracieux de recevoir ces chaudières. Elles font 15 tonnes pièces. Et voilà, c'est pareil, c'est des chaudières entièrement rivetées à la main. Hein. Voilà. Puis elles datent de la fin du 19e siècle. Voilà, donc là, vous avez un panneau qu'on a réalisé nous-mêmes avec. La chaudière, que vous voyez, il y avait pas mal de chaudières dans toute la salle. Là, on a fait une vue en coupe avec le puits numéro 10, c'est ça. Hein. Et la cheminée, vous avez la cheminée ici, puis notre bâtiment, avec la chaufferie. En 1918, tout ça, ça a été dynamité par les Allemands. Donc les mines de Courrières, à la fin de la guerre, l'armistice, ont reconstruit un nouveau chevalement qui était beaucoup plus haut. Mais celui-ci aussi a été découpé en 1956. Il a été démoli, quoi, à la fermeture de la mine. Donc, ils ont conservé seulement ce bâtiment-là pour...
Pour le sautage, voilà. Vous l'aviez dit. Ouais.
Voilà. Après, il y a le reste du site. Là, notre terrain, il fait 1 hectare. Et derrière, il y avait un lavoir, en fait, à charbon, qui préparait le charbon pour l'envoyer par voie ferrée ensuite. Tout ça, ça va... C'est par la suite, en fait, on a un projet pour aménager un chemin tout autour de promenade, en fait. D'accord. Et baliser les emplacements des bâtiments qui ont disparu.
Malgré tous les efforts de l'association des Amis de la Fosse 10 pour préserver l'ancienne salle des machines, la municipalité de Billy-Montigny souhaite acquérir le terrain afin de tout détruire et d'y construire un lotissement. Raison pour laquelle Sébastien Glaubert a lancé une pétition pour empêcher la démolition de ce site. Pétition qui pour l'heure a recueilli 2140 signatures.
Pendant qu'on était déjà sur place, ils ont placé le terrain en emplacement réservé. Ça veut dire qu'ils, leur projet, c'est de récupérer le site dès qu'il sera possible, dès qu'il sera en vente, pour tout raser et faire un lotissement, en fait. Et nous, ce qu'on veut, simplement, c'est c'est pas vraiment, on n'est pas hostile, quoi. Mais on veut, quoi qu'il arrive, on veut protéger le bâtiment et on propose notre projet, quoi. On veut que notre projet soit accepté de conserver le bâtiment et puis de conserver le site comme il est, quoi.
Mais alors, du coup, il y a quand même une pétition avec plus de 2000 signatures.
Oui, exactement. On a lancé une pétition. Il y a eu des pages aussi sur Facebook. Il y a eu énormément de soutien. Et bah, c'est ça qui, en fait, ça a cru un petit peu l'intérêt pour le site. Justement, ça nous a rendu service quand on a appris ça. Il y a beaucoup de gens qui nous ont soutenus et qui se sont mobilisés. Même la Voix du Nord, les journalistes. Il y a eu pas mal de visites, même des journalistes allemands qui sont venus et qui ont découvert le bâtiment, quoi.
Des journalistes allemands aussi.
Oui, on a eu une équipe de journalistes allemands. On les a accueillis sur le site. Pareil, je leur ai fait voir un petit peu toutes nos collections. Et c'est ZDF, je crois, quelque chose comme ça, la chaîne allemande, qu'ils ont fait un reportage sur notre activité, quoi.
Et alors, du coup, vous en êtes où avec la mairie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des discussions qui sont entamées?
Bah là, pour le moment, avec le maire, on n'a pas trop de nouvelles, mais on a notre assemblée générale, on les a invités cordialement, il n'y a pas de souci. Pareil, à la fête de la mine, on les a invités, l'adjoint au maire est venu, donc ça se passe bien en fait, mais simplement, nous, peut-être que ce qu'ils attendent de notre part, c'est des preuves qu'on est capable d'assumer le site, quoi. Moi, de mon point de vue, c'est déjà le cas, parce que ça fait pas mal d'années que je suis ici, et voilà, quoi. Si je vous montre des photos comme c'était quand on est arrivé, c'était encore pire que maintenant, quoi. Et avec la démolition du hangar, tout ça, je pense qu'on donnera davantage d'intérêt au bâtiment.
À terme, vous voudriez en faire un lieu de visite et d'exposition, j'imagine ?
Oui, un lieu de visite, d'exposition, de mémoire de la mine et des mineurs. Que ce soit en fait que ça devienne un site comme les autres sites qui sont déjà conservés, que ça a autant d'intérêt en fait pour moi, et que ça fasse partie de notre patrimoine, quoi.
Et alors du coup on ne peut pas visiter le site comme ça évidemment, mais on peut le faire éventuellement à des dates précises, hein, sur mesure avec votre association, hein.
Notre association, elle propose des dates comme le 21 septembre, le jour des journées européennes du patrimoine. Là, on sera là toute la journée. Après, sur rendez-vous, c'est possible. Vous avez notre site internet des Amis de la Fosse 10 de Billy, où on a une page spéciale pour demander des visites. Après, vous pouvez nous contacter par mail, par Facebook, les Amis de la Fosse 10. Il n'y a pas de problème. On a de plus en plus de demandes. Là, ce matin, j'ai reçu encore un appel. Donc, il n'y a pas de problème. Sur rendez-vous, il n'y a pas de problème.
Pour le 21 septembre, qu'est-ce que vous proposez pour les journées du patrimoine ?
On propose une visite guidée de l'ensemble du site, avec un tour autour du bâtiment. On va aménager aussi une exposition, il y aura du matériel d'exposé, et la visite sera guidée et commentée, quoi. On a déjà toute la matinée qui est déjà réservée. On a eu des demandes de réservation pour toute la matinée, et il y a encore des places l'après-midi.
Et est-ce que vous avez d'autres événements en prévision ?
Bah, le lendemain des Journées européennes du patrimoine, on participe au forum des associations. Là, c'est la mairie de Billy-Montigny qui nous a invités à participer. Donc, on fera une exposition au stade de la commune. Et après, on a le salon de la mine. Ça, c'est à Billy-les-Mines. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça tombe le premier dimanche d'octobre. Là, on va exposer. Et après, ce sera en 2020. On a pas mal aussi de projets d'exposition. Et il y aura des visites guidées aussi avec des jours bien précis.
Alors, si on souhaite justement en savoir plus sur votre association et pourquoi pas devenir bénévole de l'association, comment fait-on ?
Tout se fait en fait par internet. Si vous voulez, il y a notre site internet, les Amis de la Fosse 10, c'est un blog, hein. Il y a une page adhésion, adhérer aux Amis de la Fosse 10. C'est une cotisation de 10 euros par an. Et voilà, après, vous pouvez devenir membre du bureau, membre bienfaiteur, tout ça, c'est à voir en fait, hein. Il y a les anciens mineurs aussi, on a pas mal d'anciens mineurs dans notre association. Là, eux, ils sont dispensés de cotisation et c'est des membres d'honneur pour nous. Donc, ils nous apportent leur témoignage et pour nous, ça a pas de prix, quoi. Après, pour avoir plus de renseignements, on a aussi un journal d'association, Canal Fosse 10, qui paraît tous les mois. Et il est disponible sur notre blog, pareil. Il y a une page spéciale avec ce journal. Tous les mois, on fait le récit de nos activités. C'est un petit résumé, en fait, sur deux pages de toutes nos activités.
On sait qu'il y a d'autres sites dans la région qui sont également menacés, hein. J'ai en tête la Fosse 6 à Aisne, qui est en piteux état. Est-ce que vous vous rencontrez avec d'autres associations qui essayent de préserver le même genre de site que vous ?
On se rencontre, oui. On se connaît tous, hein, dans toute la région, surtout les anciens mineurs. Il y a beaucoup d'anciens mineurs. Maintenant, malheureusement, les jeunes s'occupent peu de la défense du patrimoine. La Fosse 6 d'Aisne, c'est des associations qui ne sont pas directement liées à la Fosse 6. Vous avez une association aussi au 13 bis de Bénifontaine, je ne sais pas si vous connaissez. Là, c'est des amis. Donc, oui, on se rencontre. Mais malheureusement, il n'y a pas d'action commune pour sauver l'ensemble du patrimoine. C'est un peu chacun pour soi. Nous, pareil, c'est la Fosse 10, quoi. À la base, moi, je voulais mêler un peu tout le monde et j'ai vu que bon, les gens, ça les intéressait pas trop, ils s'occupaient de leur propre site, quoi. Donc c'est pour ça que maintenant on est entre les murs de la Fosse 10 et c'est tout.
Sébastien Glaubert, le président de l'association des Amis de la Fosse 10, s'apprête également à sortir un livre, Histoire de la Fosse 10 de Billy-Montigny, qu'il publiera en auto-édition.
Ben en fait, pendant 3 ans, j'ai écrit un livre. Après, à partir de tous les renseignements que j'ai eu sur la fosse 10, l'histoire de la fosse 10, moi j'étais un peu pris au dépourvu quand je suis arrivé ici, parce que il y a quelques livres généralistes sur la mine, mais ça aborde peu l'histoire de la fosse 10. C'est un peu tombé dans l'oubli. Pareil pour les anciens mineurs du site, beaucoup ont disparu de nos jours. Donc j'ai tenu en fait à préserver la mémoire en écrivant un livre d'à peu près 200 pages là, qui est en cours de mise en, il est terminé, il est en cours de mise en page, et j'espère qu'il sera publié, édité d'ici la fin de l'année.
On va pouvoir le trouver à quelles éditions ?
Je suis en auto-éditeur en fait, je le fais moi-même avec des dons de l'association, tout ça, je vais l'auto-éditer en fait.
D'accord, et on pourra du coup le commander directement sur le site, j'imagine ?
Ouais, sur le site, ça c'est sûr. Après, j'essaie de voir avec le centre historique minier de Leeward pour leur proposer de le vendre. Ils ont une boutique là-bas qui vend beaucoup de livres de gens qui ont écrit des livres sur la mine en fait. Le Furet du Nord, tout ça, je vais essayer quand même de le revendre un petit peu partout dans la région, quoi.
Bien, merci beaucoup pour cette visite et puis toutes ces explications.
Je vous en prie, et au plaisir.
Ma station, ma région.
Voilà pour ce reportage autour de la fosse 10 de Billy Montigny et de l'association des amis de la fosse 10. Alors si vous souhaitez en savoir plus, notamment sur la visite guidée qui va se dérouler lors des journées du patrimoine hein, ce week-end, eh bien sachez que les amis de la fosse 10 possèdent une page Facebook, mais également un site internet amifosse10billy.over-blog.com. Je répète, amifosse10billy, tout collé, .over-blog.com, sur lequel vous retrouverez tout un tas de documents et de photos, parfois très anciennes, hein, sur cette fosse. Et je vous rappelle également cette pétition lancée par Sébastien Globert, hein, surnommé Seb le Billyvien, pour empêcher la démolition de l'ancienne salle des machines. L'objectif est de recueillir 2500 signatures, un objectif presque atteint, puisque je vous le rappelle qu'à l'heure où je vous parle, la pétition avait déjà recueilli 2140 signatures. Et à noter, pour être tout à fait complet concernant la visite guidée de la fosse 10, hein, samedi, hein, lors des journées du patrimoine, que la visite s'effectue par petits groupes de 5 à 10 personnes toutes les heures, avec une participation financière libre de choix, et prévoyez tout de même des chaussures de marche ainsi que des vêtements longs, puisqu'il y a pas mal de ronces par endroit. Plus d'infos, eh bien c'est par courriel, par mail à amifosse10billy@gmail.com, amifosse10billy@gmail.com. Et puis rassurez-vous, si vous n'avez pas eu le temps de noter tout ça, eh bien je me ferai un plaisir de vous répondre, bien évidemment, au standard de Radio Plus, au 09 52 22 22 07, 09 52 22 22 07. N'hésitez pas à me rappeler si vous n'avez pas eu le temps de noter tout ça. Allez, tout de suite, Ed Montagnier, une goutte de jus. Et ça non, ça c'est pas Ed Montagnier, ou alors il s'est vraiment modernisé. Là c'est Ed Montagnier, c'est mieux. Allez, à tout de suite.
Les femmes d'Alécoron, chacun à leur tour, s'invitent à la maison. À peine qu'est-ce nom, y a tourné le coin de la rue. Camo Simone, un beau un goût têtu. Depuis hier, un a raconté. Et ça va mieux, un vivant sans café. Philomène, Coscalprade à Sané. Seule femme de la rue qui va au cabaret. Excuse pour faire un shot parlotte. Je n'ai plus de temps, il manque un échalote. Heureusement que dans chaque maison de la rue, et le cafetière, allez tout dit chuchu. Char et confort d'avoir une bonne voisine, que ça soit Jeannette, Suzanne ou Bacoline. Doivent avoir fait un stage au Brésil, car leur café, j'ai pas d'El Camomile. Ici, un n'a pas.
faire le cul quand t'es beau, café là. Et le café, comme dit Marie Toutoul, chez Mieux avec un chaud pistoule. Café parchi, il s'est bocal chuchette. J'ai tellement bon, je n'ai pas du jus de couchette. Allez, Mélie, à reverser me un tas. Un ticata, c'est aucune voix des ch'tis qui passe.
Terre de mineurs.
Dorothée Billa de la comédie musicale sur la mine et les mineurs à Rambert. C'était Terre de mineurs sur Radio Plus, hein, puisque nous parlions depuis tout à l'heure de la fosse 10 de Billy Montini, que vous pouvez visiter, je vous le rappelle, ce week-end dans le cadre des journées du patrimoine. Hein, je vous rappelle l'adresse mail, hein, pour avoir plus de renseignements, c'est amifosse10billy, hein, en minuscule. Et tout collé, @gmail.com. Allez, tout de suite, l'actualité associative. Le mouvement associatif réclame des actes au secrétaire d'État chargé de la vie associative, Gabriel Attal. Ce dernier a donné tout récemment une interview au quotidien Le Parisien aujourd'hui en France. Il a indiqué dans cette interview, je cite, « Nous débloquons 28 millions d'euros pour les petites associations ». Et a également annoncé, pardon, la création de 4000 emplois financés à hauteur de 7000 euros par an sur 3 ans. Une annonce qui avait déjà été faite l'an dernier, en novembre 2018. Et du coup, le mouvement associatif s'impatiente. Dans un communiqué daté du 9 septembre dernier, il déclare, je cite, « Ces quelques mesures déjà prévues depuis plusieurs mois sont loin de pouvoir constituer le grand plan pour la vie associative souhaité par le président de la République à l'issue du grand débat national. » Fin de citation. Pour le mouvement associatif, ce grand plan de la vie associative se fait toujours attendre et le mouvement propose notamment l'affectation de l'enveloppe non consommée des parcours emploi compétences à la création de 5000 emplois associatifs dès 2020. Selon le mouvement associatif, les parcours emploi compétences ne sont que très partiellement adaptés à leur cible. Ça, c'est le mouvement associatif qui l'exprime en tous les cas. And when you can start. Yes, that's all right. So there's nothing the matter with the fuse. L'égalité homme-femme sera prise en compte pour les subventions dans le cadre de la politique de la ville. En effet, le Commissariat général à l'égalité des territoires entend faire progresser cette égalité dans les quartiers relevant de la politique de la ville. Alors non seulement le respect de l'égalité des sexes qui sera systématiquement pris en compte lors de l'attribution des crédits aux acteurs locaux dès la campagne de 2020 qui débute actuellement, mais en outre concernant les actions ayant un impact sur le sujet, eh bien ces actions, si elles sont favorables à cette égalité homme-femme, eh bien elles seront favorisées. Voilà ce que dit donc le Commissariat général à l'égalité des territoires. Allez, tout de suite, Phil Collins avec Philippe Bailey, Easy Lover sur Radio Plus. You Ce fameux duo Philippe Bailey et Phil Collins, Easy Lover, sur Radio Plus, 9h passées de 49 minutes. On poursuit l'actualité associative. Vous le savez sans doute, le 3 septembre dernier a eu lieu le Grenelle départemental des violences conjugales au Musée des Beaux-Arts à Arras. Une manifestation qui a rassemblé plus de 160 personnes composées d'élus, d'experts et bien entendu d'associations réunies pour s'engager dans la lutte contre ces violences conjugales. Ce Grenelle va être suivi d'ateliers ouverts à tous relatifs à l'accueil et à la prise en charge des victimes, à la responsabilisation des auteurs, à l'accompagnement des enfants témoins, à la coordination des professionnels. Ils se tiendront jusqu'au 12 novembre prochain. Et une restitution des travaux aura lieu le 25 novembre, qui est précisément la date de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. On vous en parlera d'ailleurs très prochainement sur Radio Plus, puisque je visiterai très bientôt un centre d'accueil de femmes battues en région lensoise. Allez, tout de suite, bon entendeur avec Isabelle Pierre, le temps est bon. Isabelle Pierre avec Bon Entendeur sur Radio Plus. Le temps est bon. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Microscope, le magazine des radios associative du nord de la France, avec une sélection de 4 reportages, dont 2 reportages signés Radio Plus. On vous parlera à nouveau du festival Musée Piano qui se déroule au Louvre-Lens à la fin du mois, et puis également des pyramidales qui vont se dérouler le 29 septembre du côté de Vingles, il me semble, et puis également dans Microscope, eh bien vous allez retrouver un reportage de Radio Club concernant les ambassadeurs du patrimoine mondial, et un autre reportage de Radio Rencontre sur le nouveau stade de Marcel Tribu. Vous en saurez plus tout à l'heure à partir de 10h. À 11h, eh bien, pas de savoir plus aujourd'hui, mais un Parlons Franf, rediffusion d'un Parlons Franf consacré justement à l'égalité homme-femme dans le sport. Voilà, je vous souhaite une très bonne matinée à l'écoute de Radio Plus, et puis je vous retrouve avec grand plaisir pour ma part jeudi prochain dans Fréquence Association à partir de 9h. Très bonne matinée à toutes et à tous.